טוב, צהריים טובים. Aujourd'hui, בעזרת השם, nous allons commencer parce que le cours est long. Un cours qui est issu de l'un de ses livres du Rav Charlap, Ma'ayane HaYeshua, les sources de la délivrance. Je voudrais qu'on commence par la partie du milieu, Gilui Hanevoa. Le cours, je l'ai appelé Peuple d'Israël, le chauffard de l'éternité. Quand je parle de chauffard, je parle de moyen d'expression qui fait passer un message qui est au-delà des mots. Il y a des messages qui passent par des mots, et les messages qui passent par les mots sont des messages relativement limités. Lorsque les mots n'ont plus de possibilité d'exprimer quelque chose, il est un élément supérieur aux mots qui s'appelle le kol, la voix. Je veux bien entendu parler de prophétie, c'est-à-dire du verbe divin qui dépasse les mots étant des enveloppes et des mesures pour faire passer un message au niveau des hommes. Mais la Torah, dans son essence, ne parle pas avec des mots, elle parle avec des voix. Et c'est la traduction de ces voix-là en mots qui fait en sorte qu'on descend le niveau de la Torah à un niveau humain. Tout ce que je viens de vous dire se dit dans le langage de nos sages, « Dibra Torah », la Torah parle « Kilshon bnei Adam » parce qu'elle s'adresse à des hommes. Mais en réalité, ceux qui sont capables d'entendre les voix de la Torah, ce sont des voix qui sont bien supérieures aux mots, qui donnent des mesures à ces fameuses voix. C'est pour ça que le jour du don de la Torah, la transmission s'est faite par un son. Moshe Yedaber, Moshe c'est un homme, donc il parle. Mais en même temps, Veha Elohim Ya'anenu Bekol. Akadosh Baruch Hu lui répond par une voix. Et cette voix, c'est une prophétie. Donc à chaque fois que Dieu contacte le monde, se révèle au monde par des voix, l'homme a une machine intérieure qui est un traducteur simultané de traduire ses voix en mots, en termes. Mais il faut bien comprendre que ces termes dépassent complètement et ne peuvent pas rester sclérosés dans les termes eux-mêmes. Il faut libérer ces termes de leurs limites pour leur donner leur sens véritable tel qu'il est au départ. Ce que je suis en train d'exprimer ici, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir par les hommes, parce que nous, on est capable d'entendre des mots. Si je me taisais maintenant, en réalité, je dirais exactement le contenu du cours que je veux faire passer, mais en face de moi, j'aurais des personnes qui n'entendent rien et qui ne comprennent rien. Parce qu'en réalité, le véritable cours d'un rav, c'est quand il se tait. Alors imaginez-vous que je vienne ici et que je me taise pendant 3/4 d'heure et on se regarde dans les yeux. En réalité, le message devrait passer si vous étiez à la hauteur et si moi j'étais à la hauteur. D'ailleurs, les élèves supérieurs sont capables d'entendre les silences du rav alors que les élèves moyens entendent lorsque le Rav parle. C'est différent. Est-ce que vous êtes capable d'entendre des silences? Attention, j'applique. Est-ce que vous êtes capable d'entendre le blanc qui se trouve entre les lettres? Ou bien est-ce que vous êtes capable de voir des lettres? Soyez honnête. Moralité, nous sommes obligés d'habiller ça dans des mots. Mais nous avons un moteur intérieur qui demande, qui aspire à entrevoir et à entendre plus loin que les mots eux-mêmes. Beikveta de Meshicha, au moment où on arrivera au talon messianique, ce terme définit en fait l'élément le plus bas de cette construction, de cet édifice. C'est pour ça que ça s'appelle les talons. Les talons, c'est quelque chose de dernier. Eh bien, lorsqu'on arrivera à cette période dans l'histoire, je veux parler bien entendu du présent dans lequel nous sommes, mit'oreret tvi'a chazaka va se réveiller une demande très puissante, très forte, les gilui hanevua, du dévoilement de la prophétie. C'est-à-dire que dans notre fort intérieur, on n'a plus envie d'entendre seulement des mots, on a envie d'entendre véritablement le message divin. Et plus, celui qui parlera devant vous collera au message du divin, plus vous allez sortir pleine du cours en question. Pourquoi ? Parce que nous sommes maintenant à une période où ce qui était de l'ordre du secret ne l'est plus. Car le secret est bon pour un temps. Je ne peux pas parler à un enfant de 10 ans en essayant de lui expliquer les relations intimes entre un homme et une femme. Mais lorsqu'il a 20 ans, la veille de son mariage, je suis obligé de lui dire, sinon il est dans une catastrophe. Donc le secret qui était lorsqu'il avait 10 ans devient autorisé à dévoiler lorsqu'il a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes matures au niveau de la nation pour entendre des messages qui viennent d'un degré supérieur à celui que nous sommes habitués à entendre jusqu'à maintenant. Donc la Torah, de facto, que vous allez étudier, va devenir de plus en plus profonde. Pas parce que le Rav un jour a décidé de monter le niveau, mais tout simplement parce que la génération demande et que le Rav doit être à l'écoute de sa génération. Les filles, chez Kol Hakara Viedia, parce que, pourquoi cette génération est capable et elle demande d'entendre les valeurs de la prophétie? Parce que toute connaissance, dit le Rav, Viedia, Regila, toute connexion normale, de base, telle qu'on a eu l'habitude de l'entendre jusqu'à maintenant, Eina Matsbi'a et Hanefesh, ne rassasie plus notre âme. C'est-à-dire, on veut plus. On en a marre d'une Torah moyenne. On en a encore plus marre d'une Torah d'un niveau inférieur. On a envie d'entendre une Torah qui émet une émission divine beaucoup plus profonde concernant en réalité tout l'essence et l'apostrophe de notre vie. Veina mechalkel et tetarua. Donc une Torah qui n'est pas à ce niveau-là, car la Torah dans son sens le plus profond, vous le comprenez, est une prophétie, puisque c'est la parole divine aux hommes. Donc toute la Torah, tout entière, est une prophétie. Vous êtes d'accord? Si elle ne l'était pas, on n'a aucune raison de marcher selon ses voies. Ça aurait été une invention humaine. Si ce n'était pas une prophétie, pourquoi devrais-je marcher selon des critères qu'un homme a inventés? Lui aussi, il est limité, cet homme-là. même si c'est un grand rabbin, il est complètement coincé dans son propre degré subjectif. Je ne dois pas entendre la Torah des hommes. Mais lorsque la Torah me vient en forme de prophétie, telle qu'elle a été donnée au mont Sinaï, eh bien ça change tout. C'est une Torah qui est objective et pas subjective. C'est une Torah qui vient de l'être supérieur qui a créé le monde. Et donc elle m'incombe, elle me demande, et je dois obéir à cette loi puisque je vis de son être. Eh bien, toute Torah à cette génération, Toda Rabba, qui n'est pas à ce niveau-là, ne rassasie plus et ne donne pas de kalkala, c'est-à-dire n'offre pas de bien, d'apport au souffle de l'homme. C'est-à-dire, avec des mots simples, que cette Torah est insuffisante à la fin des temps. La génération tout entière est en train de demander et d'exiger une Torah profonde. Une Torah qui revient à sa source, c'est-à-dire avec les données divines, telles qu'elles étaient au départ. Ou mimeile, c'est pourquoi, Yeshna Drisha, nous sommes dans une période de plus que demande, exigence, drisha. Et d'ailleurs, le véritable lieu où on doit étudier la Torah s'appelle la maison de l'exigence, Beth Midrash. Beth Midrash ne veut pas dire un lieu d'étude, ça c'est des traductions bidons, en français. Mais Beth Midrash, c'est tout simplement la maison où la lettre Beth, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes est un monde de dualité, donc c'est la lettre bête, Midrash. Donc je dois exiger quoi? L'unité qui sort entre ces deux points de ma vie qui est basée sur le temps et l'espace, c'est-à-dire sur le chiffre 2, sur la pluralité, sur la dualité, sur le pluriel d'une manière générale. Je ne peux plus entendre une Torah du pluriel, je veux entendre une Torah de l'unité, de l'unicité divine. Moralité, toute Torah qui va rester au niveau, lui il a dit, l'autre il a dit, le troisième il a dit, m'intéresse moins. Je veux savoir ce que le patron désire, que doit se dévoiler dans ce monde cette pensée divine. C'est-à-dire, je cherche une Torah de l'ordre du dénominateur commun et non plus de l'idée de chacun. Vous saisissez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que nous cherchons aujourd'hui une Torah qui est beaucoup plus profonde que ma pensée plus la tienne. Nous cherchons une Torah qui vient de l'entre-deux. Quelque chose qui, ni toi, ni moi, nous pouvons venir en sachant par avance ce qui va sortir. Je vous rappelle que la Torah divine sortait dans le temple de quel endroit? Du Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, de quel endroit? Entre les chérubins, pas des chérubins. C'est très important. Parce que si la Torah sortait des chérubins, c'est encore une limite. Elle sort cette Torah dans l'espace, dans le silence. Encore une fois, quand j'étudie maintenant en face à vous, nous sommes en train d'étudier à haute voix, eh bien la Torah qui devrait sortir, si elle est vraie, c'est une Torah que je n'ai même pas prévu de dire ce matin. C'est le cas d'ailleurs. On est en train d'étudier ensemble, je n'ai jamais étudié ce texte. Donc, moralité, il devrait sortir des éléments qui n'étaient pas prévisibles ni par vous ni par moi, mais je me laisse porter avec vous par quelque chose qui devrait venir entre nous et qui va être en réalité la naissance d'un bébé par notre lien. Ce bébé-là, bien entendu, prend la forme d'un chidouche, d'une nouveauté. Et c'est pour cela, nous sommes maintenant dans l'exigence d'une connaissance, et là le terme de connaissance, ce n'est pas information, mais connaissance. De la même manière que la Torah utilise ce terme lorsqu'elle parle d'une relation intime. Autrement dit, il ne s'agit plus d'étudier la Torah, mais d'avoir un rapport intime avec elle, ce qui fait qu'en réalité, nous sommes fécondés par l'étude et que la naissance de bébés qui vont sortir de cette fécondité vont être des degrés qui sont comme un bébé, comme un tinok ou comme un tikkun, si vous changez les lettres. Et donc nous sommes maintenant dans une exigence d'une Torah supérieure, gvoha, veromema, supérieure au carré. Hi hanevua. Je veux parler, dit le Rav, bien entendu, de la prophétie. Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire ce que veut dire prophétie? Qu'est-ce qu'un prophète? C'est pas quelqu'un qui voit l'avenir. C'est pas quelqu'un qui entend des voix. C'est pas quelqu'un qui reçoit. Vous êtes toutes en train de parler à partir de l'homme lui-même. C'est pas ça la prophétie. C'est celui qu'Hachem utilise. Ce n'est pas qu'il lui est capable d'entendre 1, 2, 3, 4, 5. C'est un élément comme des lèvres. Ce sont des lèvres que le Tout-Puissant décide de manipuler. Ça veut dire qu'on doit apprendre à être capable de se faire passer cette prophétie, c'est-à-dire cette parole divine, parce que nous sommes fabriqués avec la matière qui nous permet de faire ça. Seulement on a oublié, donc on nous remet dans des écoles pour nous rappeler ce que nous sommes en nature. Moralité, nous sommes tous des prophètes, en potentiel, seulement vous ne vous êtes jamais exercé à ce travail-là. Donc même si Akadosh Baruch Hu tente de passer par vous pour vous dire certaines choses, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Comme disait l'autre, parfois ça capte, parfois ça capte pas. Mais en réalité, nous sommes tous capables de cela, puisque nous sommes des Nevi'im et des Bnei Nevi'im. Moralité, je dois être au niveau de mon être tel que l'Éternel a voulu me créer et m'a créé, c'est-à-dire de jouer mon véritable rôle à mon véritable niveau. Et donc je deviens prophète. Et si je deviens prophète, j'ai même plus besoin qu'on me donne un texte à lire. On vient de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je suis dans une situation où la Torah est naturelle. Naturelle du mot naître. La nature vient du mot naître, c'est-à-dire je suis né avec ça. Donc ma nature, c'est la Torah. La Torah est ma nature. Donc quand j'étudie la Torah, ce n'est pas un texte superficiel extérieur à moi que je suis en train d'avaler, mais tout simplement, j'émance et je dévoile des degrés qui sont déjà en moi. Et je suis fabriqué de cette Torah. Contrairement à un cours de géométrie où on ne va jamais demander à l'élève de devenir un triangle, la Torah nous exige d'être ce que nous étudions. Ça veut dire que maintenant nous sommes en train d'étudier la prophétie, c'est une invitation à jouer notre véritable rôle de prophète. Et ceux qui dessinent un petit sourire sur leurs lèvres, c'est ou qu'ils n'ont pas une conviction totale de ce que je suis en train de dire, donc ils sont déjà avec un X éliminé, Ou bien, elles sont heureuses parce qu'elles ressentent que c'est vrai. Et là, il y a un V. Vehahakshara le kolze. Bien entendu, il faut être mukhshar, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est akshara? Kacher. C'est-à-dire, il faut nous kacheriser à. Encore une fois, que veut dire le terme kacheriser? Rendre apte à. Donc, nous devons être kacher, donc mukhshar, l'école à tous ces degrés. Comment est-ce que nous faisons pour être apte à être la bouche, le verbe, le chauffard d'Akadosh Baruch Hu, nous Israël, qui avons été créés pour cela? Bah, aliyede kol adorot hakodmim. Ce n'est pas parce que nous sommes une génération méritante seulement, mais nous sommes en réalité l'ensemble de la nation d'Israël à toutes les générations. Et là, on touche un point très important. C'est-à-dire que si je veux comprendre et être capable d'être la bouche de Dieu, entre guillemets, je ne peux pas être un homme individuel, et je ne peux pas être non seulement une nation de ma génération, je dois être en réalité l'ensemble de la nation dans toutes les générations. Donc je ne m'adresse surtout pas à des corps, mais à l'esprit Israël qui existe bien avant la création du monde. Quand on vous dit par exemple d'être au niveau de votre peuple, c'est pas seulement être ensemble, se réchauffer l'un contre l'autre. C'est-à-dire être à un niveau qui dépasse le temps et l'espace, à tous les temps et à tous les espaces. C'est un degré qui est de l'ordre de l'esprit Israël. Est-ce que tu es dans cet esprit Israël? Est-ce que tu vis à ce niveau-là? Est-ce que tu vis au rythme de la nation d'Israël, c'est-à-dire telle qu'elle a été pensée par Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est ce qui te donne l'ouverture à la prophétie. Donc le Rav est en train de nous dire... Comment je peux utiliser la puissance de prophétie qui est en moi? Donc un prophète est obligatoirement un homme qui est au niveau de la nation tout entière. Jamais un individu. Jamais. Impossible. Et même s'il est avec sa nation aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il doit être avec sa nation de toutes les générations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je décide de quelque chose au niveau de mon peuple et de la vie, c'est en faisant une réunion avec tout le peuple d'Israël dans toutes les générations. Ça veut dire que si aujourd'hui je devais prendre une décision, est-ce que j'ai le droit par exemple de donner une parcelle de la terre d'Israël? Je ne peux pas faire des élections avec les gens qui sont aujourd'hui seulement. Je dois réveiller tous les morts et leur poser la question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et comme je ne peux pas réveiller les morts, je dois en réalité questionner qui? L'âme, la neshama de ce peuple, qui elle est au-delà du temps et de l'espace. Je l'ai déjà fait et elle m'a dit non. Tu n'as pas le droit de donner une parcelle de cette terre. Donc vous n'avez pas le droit de voter pour quiconque déclare, même s'il déclare, je dois donner, parce qu'on est obligé, une parcelle de cette terre. Parce que vous allez être condamné à être associé à ceux qui ont décidé de ce genre de pogrom. Asherhem betoratam, et donc toutes les générations de tous les temps, avec leur Torah, maintenant vous comprenez que la Torah c'est pas un texte, c'est-à-dire avec notre nature, avec la prophétie, avec la parole divine. J'allais vous dire quelque chose de très grave, je sais que ça choque certains religieux. Si on était réellement à l'écoute, on n'aurait même pas eu besoin de la Torah. La Torah que nous avons vue et que nous pouvons toucher avec nos mains aujourd'hui, c'est parce que nous sommes faibles. Mais en réalité, la Torah doit être à l'intérieur de moi. Elle est à l'intérieur de moi. Mais pour une raison X et Y, je ne l'entends pas, je ne sais même pas la lire quand elle est en moi. J'ai besoin de la lire quand elle est à l'extérieur. Bizarre. pas normal. À tel point qu'il y a une halakha, s'il y a un Sefer Torah qui bouge, ça dépend qui le porte. Si c'est un tzadik qui est en train de porter le Sefer Torah, il faut embrasser le tzadik et pas le livre. Vous saviez ça? Vous regardez que le livre. Vous savez même pas qui l'a sorti du Haron. La halakha nous dit, c'est pas comme ça. Parce que le livre, c'est un livre, alors que le tzadik, c'est une Torah vivante. Toi, si je te laisse avec le livre, tu comprendrais presque rien. Mais si je te laisse avec ce tzadik, avec une heure de cours avec lui, il va t'ouvrir des portes. Que cette Torah qui est marquée sur un parchemin, c'est juste un recopiage. Ne te donnera jamais. Mais comme nous sommes devenus religieux, alors on aime embrasser les choses parce que il faut qu'on touche. Parce que c'est concret. Mais en réalité, le véritable concret, c'est le porteur de la vie lui-même. Ve'avodatam, donc par cette Torah de vie et par leur travail, leur service réel des valeurs divines, car travailler c'est servir les valeurs du divin à travers mon être. Hechinu ve'hechshiru et ador acharon, ils ont fait en sorte de nous cachériser, nous, la dernière génération, hazé, cette génération-là, pour que nous puissions arriver, nous aussi, à ce degré supérieur. C'est-à-dire, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Avec des mots simples, qu'est-ce qu'il attend de nous, l'Éternel? Qu'on dévoile les valeurs de l'éternité. Pas parce qu'on est en train de réfléchir, 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement parce que nous sommes des médiums à sa parole. Je laisse mes lèvres à sa disposition et il utilise mes lèvres comme le prophète. D'ailleurs, le mot « Navi » est enraciné dans trois lettres hébraïques, « Niv ». « Nun Yud Bet Niv » qui veut dire « Mouvement de lèvres »,« Niv Fataim ». C'est-à-dire que le prophète est en réalité paralysé. Il devient un vecteur, malgré lui, entre guillemets, de la parole divine. À la limite, une fois que la prophétie s'arrête, on réveille le prophète. Vous comprenez? Parce que s'il dit quelque chose de son propre cerveau, la Torah revient encore à être subjective. Je ne peux pas l'accepter. Même si Moshe vient ici et il m'invente un truc, je n'ai pas à l'accepter. C'est un homme. Il est donc limité. Mais si Akadosh Baruch Hu utilise les lèvres de Moshe tel que c'est le cas dans toute la Torah, alors je dois vivre selon ces degrés-là. Moshe n'a jamais sorti un mot de sa bouche qui était de sa propre intelligence. Il se lève le matin, il dit « Bon, qu'est-ce que je vais encore écrire qui va rester pour les générations ?» Ça n'existe pas. Si vous ne comprenez pas qu'il est un vecteur, ce sont des lèvres, c'est un pinceau de Dieu, vous n'avez pas à faire la Torah que vous êtes en train de faire. Exactement. Les midrashim, c'est seulement des explications, des paraboles, pour comprendre le message. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui utilise les lèvres de Moshe, tout simplement. Ça. Qui a fait? Ça c'est quand il ne prophétise pas. Mais au moment où il prophétise, il appartient complètement à l'éternité. Or, Moshe Rabbeinu n'est pas comme les autres prophètes. Lui, il est constamment dans ce degré-là. En tout cas, toute la Torah, celle qui nous est racontée de la vie de Moshe, car combien d'années a vécu Moshe? 120 ans. Combien nous savons de ces 120 ans concernant Moshe? 40 ans. Pas du tout. 60 ans, pas du tout. 20, pas du tout. 18, pas du tout. 2 ans. Sur les 120 ans, la Torah nous raconte un an et demi de Moshe Rabbeinu. Vous saviez ça? Bien sûr, vous ne savez pas. C'est tout simplement Moshe, la Torah, ça ne doit pas être marqué. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte Bereshit Shmot, à partir du moment où Moshe est né. Donc il nous raconte la vie. Moshe va disparaître toute sa vie, il va revenir à l'âge de 80 pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il va les sortir, donc ça va être l'année. La Torah ne va pas parler du tout des 39 ans du désert, elle va passer directement à l'année 40. Donc ça fait un an et demi, deux ans. Tout simplement. Pendant 40 ans, Moshe, tous les matins, allait boire un verre de thé chez Madame Bensoussan. Mais on s'en fiche. C'est-à-dire que la Torah ne nous raconte pas ces degrés-là. Elle nous raconte seulement la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a une règle chez nos sages. Nebu'a shehut frecha ledorot nirteva. On ne te marquera jamais dans la Torah des histoires qui ne servent à rien. On ne te parle que de ce qui est de l'ordre de la prophétie, donc valable à toutes les générations. Si vous ne comprenez pas cela, ça ne sert à rien. Donc la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Il faut utiliser l'histoire de la Torah parce que nous sommes comme des enfants à qui on raconte une histoire avant d'aller dormir. Mais le petit garçon de 5 ans, quand la maman lui raconte une histoire, est-ce que l'enfant, il sait intuitivement que la maman est en train de lui faire passer un message? Bien sûr que oui. Elle lui dit, tu sais mon chéri, un jour il y avait un petit garçon. Déjà il se dit, tiens c'est moi. Vous croyez qu'il est bête? Et la maman était très en colère parce qu'il avait fait une bêtise. Il dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu nous raconte en réalité notre propre histoire. Donc c'est une prophétie pour moi. Donc si je vais à la synagogue et je parle d'une histoire qui s'est passée il y a 3000 ans, il vaut mieux que tu restes dormir. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, la plupart des gens vont à la synagogue vide et en sortent vide. Ça fait peur. Si je ne prends pas de la paracha tous les éléments qui me permettent pendant cette semaine, moi, de changer, donc d'avancer, donc de perfectionner mon être et ceux qui sont autour de moi pour permettre justement à l'Éternel de parler à travers moi, on s'en fiche complètement de ce que je fais. Je peux me déguiser en 10 rabbins avec 10 barbes et 3 chapeaux, on s'en fiche. Vous comprenez? Mais quand on tombe dans la religion, ben la religion ce n'est pas une prophétie, c'est une invention humaine. Donc je suis anti-religieux. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, ça oui, mais ce n'est pas de la religion. C'est de la prophétie. Donc toute notre Torah est une grande prophétie. Et toutes les halakhot qui en découlent, ce sont des halakhot qui découlent de cette même prophétie que nos sages ont compris comment faire venir jusqu'au plus petit détail de ma vie, à savoir comment je dois la sémélasser. Quel? J'ai pas compris. La période des rois nous sert à savoir comment ériger et à quoi ressemblera un jour le roi d'Israël. Donc il y a des rois un petit peu tordus, il y a des rois qui sont moyens, il y a des rois qui sont bons. Et tous s'appellent des rois d'Israël. C'est-à-dire que lorsque nous reviendrons à la fin des temps sur notre terre, on aura des présidents moyens, peut-être médiocres, et ça s'appellera aussi des rois, ça fera partie d'un processus. Et le divin s'habille dans les données qu'il a aujourd'hui. Si nous sommes un âne, eh bien le Mashiach vient chevauchant un âne. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il va venir sur un hamar. Ça veut dire qu'il va chevaucher, il va appliquer, il va utiliser la génération en question, même si c'est un âne. Vous comprenez? Donc Akadosh Baruch Hu utilise les données que nous lui offrons. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, utilise notre nation avec le degré dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Pour lui, c'est une chose qui n'est pas à notre niveau, donc lui étant en dehors du temps et de l'espace, qu'elle sait exactement comment se mettre au niveau de ce qu'il a en face de lui. C'est tout. Et c'est pour ça que je vous ai dit que les sages qui parlaient aux générations d'avant ne donnaient pas des secrets de la Torah, mais que la génération, la dernière, elle, étant donné qu'elle est montée de niveau, eh bien, il faut changer le dialogue. Il faut changer le discours. Il faut parler avec une onde que la génération est capable d'entendre aujourd'hui, et non pas la rabaisser toute la journée pour la ramener dans une génération d'avant, et surtout ne jamais dire que les générations d'avant étaient meilleures que la génération d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Et malheureusement, dans beaucoup de cours, on nous dit qu'aujourd'hui on est des minables et qu'avant ils étaient bons. Et moi je vous dis le contraire. Non, il n'était pas plus proche de la Torah, en tout cas pas toutes les générations, en tout cas pas dans cette quantité-là comme aujourd'hui. Il n'y avait même pas de livre, il n'y avait même pas de possibilité d'étudier. Aujourd'hui, vous avez tous ce que le plus grand des kabbalistes avait à n'importe quelle année. Dans une petite clé USB, vous avez 10 000 livres. Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Vous pouvez aujourd'hui avoir une connaissance, vous tapez sur un bouton, vous avez 10 000 shiurim. Vous croyez que les gens avaient cette connaissance? Vous connaissez aujourd'hui des choses que de très grands personnages connaissaient, seuls. Ken? Non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Si on était une génération beaucoup plus spirituelle, on aurait été des... Des vapeurs. Pourquoi Akadosh Baruch Hu est spirituel? Je vous pose la question. Chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu c'est l'infini, c'est-à-dire il n'est pas plus dans la spiritualité que dans la matière, il est partout. Donc quand tu dis à quelqu'un en croyant que tu lui fais un compliment, ah tu es devenu spirituel, c'est une malédiction. On n'est pas spirituel. On est en réalité des vecteurs d'Akadosh Baruch Hu, comme dans mes neshamas, comme dans mon corps. Dans le sein des saints, on aurait pu imaginer qu'il y ait quoi? Rien. Il y a là-bas deux chérubins qui sont en forme d'hommes et de femmes qui sont ensemble, dans une relation que je vous passe les détails. Ça vous paraît pas bizarre? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas plus dans ce degré que dans l'autre. À tel point que les kabbalistes appellent la chambre à coucher dans la maison Kodesh HaKodashim. Et vous, vous avez l'impression que c'est l'endroit le plus sale. On n'a rien compris. On est tombé dans n'importe quoi. Chrétienté, 2000 ans. Quelle? Cette haine des Arabes. La haine que nous avons envers eux ou qu'ils ont par rapport à nous? Ah, qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout ce qui se passe par rapport aux nations du monde et Israël, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de jouer notre rôle comme il faut, donc Akadosh Baruch Hu utilise des moyens pour nous bouger un petit peu, pour nous permettre en réalité de reprendre conscience de ce pourquoi nous sommes là. Donc ce sont des révélateurs pour nous réveiller quand on s'endort. C'est tout. Et chaque fois qu'il y aura quelque chose de terrible en France, il y aura un petit peu, après, quelque chose de terrible en Israël. Pourquoi? Pour que les Juifs de France aient le choix de venir ou de poser leurs valises. Vous comprenez? Ça remaintient, ça remet les degrés au niveau de leur libre arbitre. Parce qu'il se passe des choses mauvaises là-bas, et ici c'est le paradis, eh bien tous les jours à l'aéroport vous verrez 10 000 personnes. Mais comme c'est difficile là-bas, les gens lèvent leur valise, ils voient un attentat ici, ils reposent la valise. Ça marche comme ça, Rabotai. C'est-à-dire que chaque juif, à n'importe quelle génération, il a le même libre arbitre d'être ou de ne pas être, de vivre ou de ne pas vivre son judaïsme sur sa terre. C'est comme Pharo. Pourquoi Kadosh Baruch Hu endurcit son cœur? C'est pas régulier, c'est pas du jeu. Ainsi. Parce que quand Pharo reçoit un coup, la nature, qu'est-ce qu'elle lui dit à Pharo? Obéit. Donc il a perdu son libre arbitre. Dès qu'il a une plaie, il a perdu son libre arbitre. Donc pour qu'Akadosh Baruch Hu lui redonne le libre arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit son cœur. Vous comprenez comment ça marche? Ken? Ken? Ce qui me dérange dans la religion, c'est tout simplement que la religion, le terme religion, c'est appliquer des lois pour devenir juif. Alors que moi je suis Israël et je fais des lois qui font partie de ma nation. C'est tout, c'est la seule différence. C'est-à-dire la religion c'est une invention humaine, alors que la Torah c'est une vie divine qui traverse le peuple d'Israël. C'est tout. Ken, nachon, tu te relies à Dieu. Donc encore une fois, tu limites Dieu à ton niveau. Donc tu es Oved Avodah Zara. C'est tout. C'est-à-dire quand je me relie à Dieu, je sous-entends que je sais où il est. Moi je ne suis pas en train de dire ça. Ça c'est de la religion. Moi je suis en train de dire, laisse Dieu te traverser. C'est tout. Tu ne peux pas monter, ni aller, ni te relier, ni quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire tous ces termes. Ça veut dire que tu as limité Dieu à ton cerveau, à toi. Donc Dieu est aussi petit que ton cerveau. C'est pas ça du tout, le judaïsme. Moi, je me laisse ouvrir, je suis un canal, et je fais en sorte que le maximum de l'infini passe par moi. Ça, c'est autre chose. Ça vient du haut vers le bas, jamais du bas vers le haut. Date, c'est pas une religion. Non. Ça veut dire que c'est en réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu fait passer par nous. Akadosh Baruch Hu prie. Et moi, je m'associe à sa prière. C'est tout. C'est-à-dire, quand je rentre à la synagogue pour prier, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Je m'associe à une prière qui existe déjà, c'est-à-dire à un écoulement de bénédictions, de tout ce que vous récitez là-bas, la bonne santé, la parnassa, la sagesse, tout ça, qui circule dans le monde, et moi je me mets dans le même bain et je coule avec. C'est tout. Vous croyez que je monte quelque part? Chas v'shalom. C'est de l'hérésie. Akadosh Baruch Hu prie avant moi. Il est tout le temps en prière, c'est-à-dire il est tout le temps en lien. Et moi, de temps en temps, je m'associe à ce lien. Je devrais le faire toute la journée. Encore une fois, il ne prie pas dans le langage prière comme vous l'entendez. Il prie, c'est-à-dire il est relié à ce monde, il est relié à la vie qu'il a créée lui-même, normalement, par son être. Il fait vivre le tout à chaque instant et moi je m'associe de temps en temps à cette liaison. C'est tout. Mais je ne crée pas un lien, je n'invente pas un lien, je monte nulle part. Vous comprenez comment ça marche? Non. C'est un lien, mais je suis moi, pas moi l'initiateur d'aller vers. Je ne peux pas aller vers quelque chose. Je laisse l'infini me traverser. Je ne sais pas où aller. Si tu dis je vais à droite ou à gauche, c'est que Dieu est à droite ou à gauche. Donc il est limité. S'il est à droite, il n'est pas à gauche. S'il est en haut, il n'est pas en bas. C'est déjà un problème. Bevadai, bevadai. Mais Akadosh Baruch Hu nous a, parce que nous sommes incapables de faire ça tout le temps, alors il nous donne des lieux pour qu'on touche un petit peu à certains degrés, parce qu'on est capable, on est incapable de faire autrement. Okay. Alors il y a des règles dans ce monde. Bien fait. Ça veut dire que le Harizal priait dans la nature, communiait dans la nature avec l'existence même. C'est tout. Bien entendu, c'est pour ça. Le meilleur endroit pour recevoir le Shabbat, c'est-à-dire pour recevoir cette prophétie, car la Torah, quel jour elle a été donnée? Shabbat. Eh bien, c'est pour ça que à l'entrée du Shabbat, qui est un jour propice, pour entendre, c'est pas que Dieu parle le Shabbat et il se tait, il éteint la radio le dimanche. Mais le Shabbat, je suis dans la meilleure émission, pour moi l'homme, donc je peux entendre la parole qui est continuelle. Car Dieu, quelle date il a donné la Torah? En combien? 2448. Faux. Dieu donne la Torah à chaque instant. Nous, nous avons entendu un jour en 1948. En 2948. Vous avez compris? Est-ce que Dieu a donné la Torah un jour et il s'est dit, ça y est, aujourd'hui, ce matin, je leur ai donné 10 paroles, demain je me repose. Ça n'existe pas chez Dieu. Dieu, c'est l'éternité. Baruch atah Hashem noten la Torah au présent. Il est tout le temps en train de la donner. La même Torah qui était au Mont Sinaï. Pourquoi nous avons entendu là-bas et maintenant on entend moins? Ça, c'est ta question que tu dois te poser. Mais en réalité, si tu étais au niveau, tu aurais dû entendre jusqu'à maintenant les mêmes paroles qui sont tout le temps en train d'être dites. Ça vous remet les pendules à l'heure. Mais avant le don de la Torah, bien entendu, depuis la création du monde, Dieu émet son émission à chaque instant. Il faut attendre des générations pour que quelqu'un il ait l'oreille de pouvoir capter. Il y a fait, parce qu'aujourd'hui nous sommes faibles. Aujourd'hui nous avons perdu cette confiance en nous, c'est-à-dire je ne peux plus me référer à mes ressentis, parce qu'ils me sont un petit peu dévoyés, sortis de la voie. Mais si j'étais Abraham Avinu, il avait 2 reins qui lui disaient tout, comme 2 rabbanim qui étaient en lui, 2 reins. Qu'est-ce que ça veut dire 2 reins? Qu'est-ce que c'est le rein chez l'homme? C'est toute la puissance qui le fait avancer, toutes les forces sont dans les reins. Donc il avait des kelim. Il avait les kelim nécessaires qui parlaient de lui-même, c'est-à-dire qu'il entendait la Torah à chaque instant. Donc il savait qu'il ne fallait pas faire ça et ça, il savait comment faire Shabbat, il savait comment mettre les tefillin à son niveau. Pas besoin d'un texte. Plus nous nous affaiblissons, plus on a besoin de texte. Quel? D'accord? Quel? Parce qu'aujourd'hui, on se met au niveau de ce que nous avons, on a beaucoup de textes, mais en réalité, ces textes sont en train de réveiller, ils ont une résonance à l'intérieur de nous. Donc ça réveille en nous des degrés qui sont déjà en nous. Par exemple, le texte que vous êtes en train d'étudier, je vous ai distribué en réalité des aimants. C'est des aimants. Vous avez déjà étudié ce texte, seulement vous avez oublié. Au moment où vous étiez dans le ventre de maman, dit la Gemara dans le traité de Nida à la page 30, vous avez déjà étudié ce texte. Et vous connaissez tous ces secrets. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je suis en train tout simplement de retrouver cette résonance en vous. C'est tout. Et comme vous êtes des femmes et que vous avez un sens supérieur aux hommes, vous ressentez les choses encore plus qu'un homme. Et vous dites, tiens, je le savais ça intuitivement. Il y a fait, ça peut devenir une barrière si je ne comprends pas comment dépasser le texte, et je vous ai dit en départ de ce cours, est-ce que vous êtes capable d'écouter l'entre-lettre, et pas seulement les lettres. Et je veux faire référence à cela, précisément. Quel? Bien fait. Les autres peuples, en réalité, doivent se référer à ce que Israël reçoit de cette éternité. C'est-à-dire, nous sommes en réalité le Moshe des nations du monde. C'est-à-dire, nous sommes le prophète des nations du monde. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Donc, Dieu parle à travers les lèvres d'Israël. C'est pour ça que j'ai appelé ce cours le chauffard. Nous sommes le chauffard de Dieu dans le monde. Et donc, les nations, réellement, si elles veulent prier, elles doivent passer par ce qu'Israël a reçu et qu'elle fait passer au monde. Si les nations veulent court-circuiter Israël pour se référer directement à Kadosh Baruch Hu, c'est de la Avodah Zara. C'est tout. C'est pour ça qu'elles essayent en réalité de nous mettre de côté. Mais si elles savaient réellement ce qu'Israël doit apporter au monde, elles nous aideraient toutes à construire le 3e Beth Amikdash. C'est tout. Parce que c'est le grand transistor qui permet l'émission sans brouillage. C'est pour ça qu'on doit construire le Beth Amikdash, pas pour autre chose. Il y a fait. Ça c'est une autre question. Je vais plus loin que toi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi ceux-là et pas les autres? Ben, il les a pas choisis, il les a créés comme ça. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas choisis une fois que nous étions là, qu'on était là. Il nous a choisis dans sa pensée de nous créer avec les qualités pour permettre de passer son verbe à travers nous. Donc c'est autre chose complètement. Donc si on vous demande un jour où est-ce qu'il y a eu des élections, il y a marqué Asher Bacharban ou Mikola Amim, où est-ce que Dieu nous a choisis? Pourquoi il a fait une réunion de toutes les nations Unies, et il s'est dit tiens, ceux-là mieux que les autres? Non! Il a, parce qu'il faut comprendre, Asher Bachar livro otanu besura kazot. Il a choisi dès le départ de nous créer avec toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'on devienne le Verbe du divin dans ce monde. Et tant que je ne joue pas ce rôle, je suis en deçà de mon niveau. Slicha. Abraham, on ne l'a pas choisi par son travail personnel. Hachem l'a choisi. Pas lui. Mais ce n'est pas par son travail. On le dit tous les matins. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la tfila? Ata Hachem, Elohim, Asher Bacharta be Avraham, ou be Avram, Otseto me Okazim, Karata Shmo Avraham, ve après Raïta. Après, tu as vu qu'il était Néhéman Lefanecha qui faisait ce que tu voulais. C'est-à-dire que le choix était bien avant ses actions. Bien fait. C'est-à-dire qu'Abraham est le premier porteur de ce, de cette âme Israël qu'il a déjà créé avant. C'est tout. Bien fait. On a du mal parce que tout simplement, si j'ai reçu un don d'être artiste, je suis né artiste, n'est-ce pas ? Mais si je rentre pas à l'atelier tous les matins pour m'exercer, mon art restera fermé, en potentiel. C'est tout. Qu'est-ce que je fais toute la journée ? Je m'exerce. Je fais de l'entraînement pour réaliser ce que j'ai déjà en moi. Comment ça s'appelle faire de l'entraînement ? Leit Amen. Donc je suis Oman. C'est tout. Artiste. Donc j'ai la Emouna. Donc avoir la Emouna, c'est tout simplement s'entraîner à dévoiler ce qui est déjà en nous. N'a rien inventé. Surtout pas inventer quelque chose. Mais voilà, nos âmes existent. Quelle? C'est une pensée divine dans la pensée Israël. Et après, nous sommes des canaux qui sont sortis de cette grande Neshama Israël. Adam Arishon, c'est déjà un homme. Moi, je parle bien avant Adam Arishon. Dieu a créé une qualité qui s'appelle Israël, qui existe depuis. C'est la pensée de Dieu, la première pensée de Dieu, elle s'appelle Israël. Et après, il va créer des êtres humains qui vont être porteurs de cette Neshama. C'est tout. Je ne veux pas tous en même temps. Levez la main pour parler, comme dans l'école. D'accord. D'accord. C'est vrai aussi. Vraiment. Quel? Bien fait. Pourquoi ne pas avoir créé le monde entier, Israël? D'accord? D'accord. D'accord. Pourquoi est-ce que tout ton corps n'est pas un œil? Il a fait, ça veut dire qu'en réalité, tout ton corps est relié à ton cœur, donc le cœur c'est Israël, mais on a besoin aussi de ton petit doigt. Et le petit doigt doit être obéissant aux valeurs du cœur et de l'esprit, qui s'appelle Israël. C'est tout. Ça veut dire, j'ai pas quelque chose de plus important que l'autre, tout est important, les nations du monde sont comme des membres de mon corps, mais tout mon être marche avec Yoël. Et quand je suis venu ce matin, mon oreille, elle voulait rester à l'atelier. Qu'est-ce que je fais? Je l'enlève, je la mets sur la table? Non. Elle fait partie de mon être. Donc elle est obéissante au mouvement général de Yoël. Ça, c'est les nations du monde par rapport à Israël. C'est tout. Donc on est obligatoire, on n'est pas différent, tant pour être différent, on se complète. Et donc le schéma universel du monde se trouve sur Israël. D'ailleurs, je vais vous donner un chidouche. Les derniers Français qui vont rester de l'histoire, c'est les juifs de France qui sont montés de France. Les derniers Espagnols de l'histoire vont être les Espagnols qui ont fait leur alia. Car l'Espagne va disparaître, elle va perdre son identité, la France va perdre son identité. C'est-à-dire les dernières mémoires de ce qu'était un jour la France, ça va être vous. Le français que vous parlez aujourd'hui, on ne le parle même plus en France. C'est même plus le même niveau. Aujourd'hui, tu passes là-bas en France, c'est pas le même niveau. Madame, tu as vu le machin. Et toutes les nations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va se regrouper ici, on va être la mémoire de tout ce qui était un jour dans l'humanité. C'est un film de science-fiction. Bien fait. Ça veut dire que nous sommes les canaux toi, tu es un canal pour la France, pour la nation française. Donc il ne faut pas que tu perdes cette qualité de la française qui est en toi. C'est-à-dire ton sens de l'esthétique, par exemple, tu dois le garder parce que les Français, quand ils entendront la Torah, elle devra s'habiller chez eux avec un sens esthétique. Et l'espagnol par le caracina, et ainsi de suite, chaque nation. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes des vecteurs, et comme le vecteur doit s'adresser à quelqu'un, il doit prendre la même couleur un petit peu que lui, pour que l'autre l'accepte. Exactement. Ça s'appelle le juif universel, donc ce qu'on appelle Yeshurun, c'est le dernier degré. Gradiela, tu avais une question? Ah, c'était juste pour aller aux toilettes? C'est comme les élèves.
Par exemple, on a
des prémonitions.
C'est-à-dire qu'on sait ce qui va arriver.
Ok.
Qu'est-ce que c'est un ange?
Alors, ça peut être un genre de rêve prémonitoire ou...
Ça vient comme ça.
C'est pas encore de la prophétie, si c'est ça la question. Ken, c'est encore un degré qu'on appelle peut-être, c'est éventuellement Ruach HaKodesh, mais c'est des pas de la prophétie, dans le mouvement général qui s'appelle prophétie. C'est-à-dire un prophète ne peut pas se tromper, c'est impossible. C'est pas de l'à peu près.
Vous savez pourquoi je rigole? Parce que deux fois, une semaine avant, je dis à Gracilia, vous ne direz pas.
Ah, ça se fait? Donc c'est vous qui avez fait en sorte que je ne vienne pas.
Non, mais bon, malheureusement, je savais une semaine avant
que je n'allais pas venir. Et moi, pour ne pas vous faire honte, j'ai dit, puisqu'elle est prophétesse, ne va pas.
Non,
est-ce que l'essence de ce que je voulais dire a été compris. Okay. Toda Rabah.